Christophe avait la bagure et est artiste peintre et auteur. Il expose ses œuvres depuis 1992, créateur de la série Fast Floating Souls. Il confronte une vision du monde standard à la singularité des êtres en ce début de 21e siècle. Christophe avait la bagure a déjà publié 51 Tons of Life. J'ai dit 51 parce que je parle très mal anglais. Une œuvre poétique bilingue, anglais et français. Et un deuxième roman, Les démons de Paul est à venir. Entre-temps, vient de sortir Les baies rouges d'Églantier. Bonjour Christophe Avé-Labagure.
Bonjour.
Alors, le lien que je ferai de suite, c'est que vous vous présentez déjà comme artiste peintre.
Eh oui, tout à fait. Je suis artiste peintre depuis toujours, on va dire. J'ai appris à le devenir. Et maintenant, j'expose donc depuis 1992. La première fois, c'était à Paris. Maintenant, c'est un peu autour du monde. Et là, j'expose notamment en Belgique, dans la ville de Arlon, dans le palais d'Arlon, avec 52 œuvres que j'ai créées cette année.
Alors, je parle de peinture, évidemment. Nous n'allons pas parler uniquement de peinture. C'était simplement pour vous présenter en disant que vous êtes un artiste qui avait plusieurs cordes à son arc. Je vous demande une chose, quel rapport ou quel lien vous faites entre la peinture et l'écriture ?
Alors, il n'y en a jamais eu jusqu'à ces trois dernières années, bien que j'ai toujours écrit, que ce soit des critiques d'œuvres, pour mes textes aussi, concernant les peintures, pour des livres, etc. Et puis, j'avais gardé, on va dire, des romans, de fiction, des poésies de côté, sans jamais vouloir ni les montrer, ni les publier. J'avais beaucoup à faire avec la peinture, il fallait développer toutes les œuvres, être pertinent. Et il y avait aussi cette volonté de s'inscrire dans une histoire de l'art. Alors ça, ce sera peut-être vu après par les critiques et les siècles, mais en tout cas, il fallait avoir un travail pertinent aujourd'hui, après les 30 000 ans d'art qui existent dans notre civilisation. Il y a eu une volonté de faire une pause de la peinture. J'avais beaucoup, beaucoup travaillé pour beaucoup d'expos en Chine, aux États-Unis, en France et en Europe. Et puis les mots sont arrivés. J'ai donc sorti le premier opus poétique 51 Tons of Life et en français bilingue. Et puis c'est parti, quoi. Donc le premier roman, celui-ci, Les baies rouges d'Églantier, qui est une sorte de manifeste sur la peinture, sur les considérations d'un artiste dans le monde actuel. Le travail dans l'atelier, le rapport aux anciens, le rapport au futur, le travail même, je dirais, à la nature. Et puis ensuite, c'est parti avec cette histoire d'Adrien, qui est le peintre qui est décrit. Alors j'utilise dans le livre toute ma connaissance de l'art, j'y mets même mes œuvres, mais ce n'est pas un récit autobiographique, c'est vraiment l'histoire d'Adrien qui va se développer, voilà, tout au long du livre.
Sur la dernière page de couve, on voit des mots comme art, amour, liberté, création artistique, manifeste, atelier, travail harassant, enfermement, isolement. Pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, tout à fait. Je pense en effet que le créateur aujourd'hui est quelqu'un qui est peut-être de tout temps, mais a fortiori aujourd'hui, où nous sommes dans une société de divertissement, d'entertainment, comme on dit via les États-Unis, c'est quelqu'un qui doit rester dans l'atelier, essayer de sortir la tête de l'eau en créant des œuvres qui n'ont pas été vues, et qui a vraiment une création pertinente, qu'il ne s'agit pas d'illustration, d'illustrer des petits propos, des petits chapitres de l'histoire de l'art, mais au contraire d'essayer de déflorer de nouveaux territoires. Et c'est un travail harassant. Je pense que le public ne connaît pas ce travail. La grande majorité des gens ne connaît pas le travail artistique, mais l'artiste travaille seul, un peu comme une sorte de moine. Mais il n'y a pas de religieux, sinon du spirituel. Et ça peut l'enfermer, ça peut l'exclure de la société. Donc c'est un peu le sujet du roman, quoi, en fait.
Et ça tombe bien que ce soit le sujet du roman, puisqu'on est en train d'en parler, Les baies rouges d'Églantier de Christophe Avé-Labagure. Comment on peut se procurer votre roman ?
Alors, je suis passé outre les maisons d'édition pour l'instant. Je trouvais que leur réponse était longue, et à 52 et maintenant 3 ans depuis hier, j'ai pas envie d'attendre. J'ai déjà une œuvre picturale avec beaucoup d'expos dans le monde, et j'ai pas envie d'attendre l'aval d'une maison d'édition. Donc j'ai publié en auto-édition. Et j'ai trouvé un support qui convenait très très bien, puisqu'il me permet d'éditer en e-book et en œuvre et en papier. Donc on peut se le procurer avec le titre, sur Amazon aussi, qui est fortement décrié, mais qui donne beaucoup de liberté aux auteurs. Et ça, c'est très très bien, avec un système qui s'appelle Amazon KDP, où l'artiste fait, ou l'auteur fait ce qu'il veut avec ses livres. Voilà. Puis ensuite, on verra si une maison d'édition est intéressée pour une seconde édition.
Vous avez un site aussi, peut-être?
J'ai effectivement un site, donc c'est mon nom, christopheavetlabagure.online, où on peut voir les œuvres depuis 2004, donc pas depuis le début de mon travail d'artiste, mais depuis la série importante Face Floating Soul, Les âmes flottantes, qui est exposée maintenant partout, et où on voit les livres, des textes, enfin toutes sortes de choses, quoi.
Évidemment, vous retrouverez le lien du site de Christophe Avelabagur sur notre site de fréquencemistral.com pour que vous puissiez aller voir de vos yeux. Revenons sur les baies rouges d'Églantier. Et si vous nous lisiez un passage
Alors,
pour
je
nous
vous
mettre en
lis,
appétit?
oui, je vous lis un petit passage qui correspond un petit peu à ce que Adriaan, cet artiste peintre, dans son atelier, se dit par rapport à l'art, par rapport à son travail et à la considération qu'il a de. Qu'il pense que le monde a sur l'art aujourd'hui. Il en va comme cela aujourd'hui, nous avons changé de paradigme. L'art, cette chose qui a nourri l'esprit, est dorénavant un foutre coloré ou volumique, inutile, car il est dévoyé jusqu'en son trognon. Peu savent encore le lire, mais tous le côtoient. Peu se soucient de qui le fait, dans quelles conditions il le fait, sauf quand celui-ci sera auréolé de gloire. L'artiste peut bien crever, car de toute façon, bientôt, il ne sera que la variable d'ajustement du marché. Et le turnover des expositions mondiales le démontre quotidiennement. L'alibi de notre propension pour l'art est désormais notre oisiveté morale et intellectuelle qui transforme la création en divertissement. Il faudra tôt ou tard un nouvel art pour nous sauver du néant dans lequel nous plongeons. Il faudra un art cru qui se gosse du spectacle, mais je crains qu'il faille l'attendre comme le Messie. En vain, écrivit Adriaan dans un de ses carnets d'études.
Donc c'est une vision d'un changement, d'une transformation. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot spirituel. Vous avez prononcé ce mot.
En effet, spirituel, parce que je pense que pour être créateur, il faut avoir de la spiritualité qui ne s'attache pas nécessairement à une religion, d'ailleurs, mais une spiritualité, c'est-à-dire une croyance humaniste en l'homme, en le futur, en intégrant aussi le passé. Il n'y a pas de création ex nihilo qui viendrait du néant. On se nourrit du passé, on travaille le présent pour l'amener vers le futur, pour créer un langage qui pourra servir, peut-être universellement, en tout cas un maximum de personnes. Alors, ce partage, il ne s'agit pas de rester dans une tour d'ivoire, mais au contraire, de créer peut-être un monde meilleur, et ça sans utopie. Un monde meilleur où les gens auront peut-être plus de conscience à voir ce qui se produit tous les jours entre eux et par rapport aussi à leur environnement. Je crois que la question environnementale est aussi importante, même en art.
Je vous pose cette question puisque c'est vrai que la société d'entertainment qui consiste à toujours considérer l'amusement, la consommation au premier degré, ça ne permet pas d'avoir accès véritablement au travail qui est effectué et l'appréciation du travail de l'artiste. Et en tant que tel, avec ce que nous venons de vivre avec cette crise sanitaire, bon nombre d'artistes peut-être se remettent en question. Est-ce que vous vous êtes remis en question?
Alors j'ai toujours eu ces préoccupations envers la nature, de façon naturelle parce que je vis pratiquement dans la forêt. Donc la nature, c'est quelque chose que je vois au quotidien. Je vois le changement des saisons et j'ai eu très tôt cette prise de conscience que l'art ne devait pas échapper à la nature. Elle ne devait pas échapper au devenir humain et qu'il n'était pas simplement là pour divertir, pour éventuellement faire de l'argent et pour servir à des classes plus aisées, mais qu'il devait montrer aussi ce qu'était la société en temps réel, quoi. Et donc, je parle aussi, par exemple, de la production artistique. J'ai horreur de ce nom. La création ne peut pas être une production, c'est une création. Donc, ça veut dire que c'est aussi limité en quantité. Parce que il n'est pas utile de rajouter aux milliards d'images que l'on voit quotidiennement des œuvres qui n'auraient plus de sens. Donc ça aussi, c'est une sorte d'écologie du travail artistique. Et puis, le fait de produire beaucoup sans nécessité, Je pense qu'on peut concentrer le travail, c'est aussi des déchets. Donc je pense qu'il faut avoir une vision globale. Et l'artiste, s'il peut être un fer de lance là-dedans, c'est aussi de montrer l'exemple, de donner conscience. Voilà. Donc c'est vrai que les gens, aujourd'hui, se divertissent beaucoup, télé, internet, etc. Mais bon, l'artiste, c'est cette petite voix, ce petit grain de poivre qui va peut-être leur donner conscience. En tout cas, il y a des gens, beaucoup de gens qui sont touchés, le public à travers le monde qui peut être touché par des artistes qui ont un vrai engagement. Et je pense en faire partie.
Lorsque vous écrivez un roman, notamment Les baies rouges d'Églantier, donc, que vous venez de publier, votre volonté de partage, quel est le public que vous voulez toucher ?
Tout le public. Tout le public. Alors, pour certains, ce sera peut-être plus difficile, mais peu importe. Je veux dire, la création, je dirais, doit aussi se mériter. Il faut faire la démarche d'aller vers elle. Et je m'en voudrais de simplifier un discours, de simplifier même des mots, des phrases, simplement pour que ce soit compris par tout le monde. C'est le public en général qui doit faire l'effort pour apprendre l'art, pour apprendre la musique, qui pourrait bien comprendre la musique sans un petit peu l'étudier, sans s'intéresser vraiment de près, que ce soit la littérature, la poésie, n'importe quoi. Je pense qu'en fait, il faut bannir un peu cette fainéantise où on pense que tout est d'accès facile. C'est une illusion, quoi. C'est une pure illusion de croire que le monde est à nos pieds. Non, le monde est aux pieds de personne, il faut aller le chercher.
Alors on pourra, justement, pour aller chercher, pour vous rencontrer, parce que ça peut être intéressant aussi de rencontrer un auteur, vous allez effectuer quelques signatures. Vous en avez déjà effectué des signatures ?
Oui, j'ai effectué des signatures à Sisteron, dans plusieurs villes alentour. La prochaine sera à Reillanne.
À la librairie Roguin.
Oui, voilà, à la librairie Roguin en septembre. Parce que bon, après, c'est vrai qu'il y a des auteurs, il y a beaucoup de signatures. Et puis, il faut prévoir ça longtemps en avance. Et puis, avec ce Covid, ça a tout un petit peu reculé. Il y aura aussi des salons. Mais bon, ça va venir au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est un petit peu tendu pour tout ce qui est culturel, que ce soit des expos. En ce moment. Donc bon, vu qu'il y a moins de place dans les salons et peut-être même les librairies par rapport à l'urgence sanitaire, donc on recule et les dates s'allongent considérablement. Mais oui, je vais aller faire des signatures, rencontrer le public, c'est tout à fait intéressant, parler d'art, ce que j'ai déjà fait. Ouais.
Revenons à une question. Un livre, ça commence toujours par un titre. Alors généralement, c'est pas tout de suite le titre qui vient en premier. Juste cette question-là, votre titre, vous l'avez trouvé après ou avant ? Les baies rouges d'Églantier. Très beau titre d'ailleurs.
Je l'ai trouvé assez rapidement. C'est aussi pour montrer cet attachement à la nature, mais pas uniquement. Les baies rouges d'Églantier, donc les cynorhodons, on en trouve beaucoup ici dans notre région, jusqu'en montagne. Et C'est un fruit qui est en même temps délicieux, qu'on utilise en montagne quand on fait des marches, des trails, des grandes randonnées. Ça donne des vitamines C, ça donne du peps. Et en même temps, il y a des épines, puisque c'est le rosier mère, quoi. Et donc, on est entre les deux, entre des postulations, quoi, entre Eros, Thanatos, entre la douleur, le plaisir. Et donc, c'est un peu comme tout le roman, quoi. Bon, on est dans l'art, on est dans un manifeste, il va y avoir de l'amour, parce que ce peintre va quitter l'atelier pour essayer de sortir, de reprendre le pouls de la civilisation, puis de sa vie. Et c'est un peu comme ça, quoi. Voilà.
Ça me fait penser à quelqu'un qui s'est confiné et qui redécouvre un petit peu son être intérieur, son soi.
Oui, voilà, oui, qui s'est un petit peu oublié, qui a laissé passer son métier, ses convictions, ses aspirations, et puis tout d'un coup qui se dit non, mais je me suis laissé enfermer dans ma propre prison, quoi. Et c'est pas possible, quoi. J'ai quand même une vie, donc il faut aller la toucher, il faut aller l'appréhender, l'éprouver, voilà.
Eh bien, c'est un très très bon conseil lecture, puisque dans notre émission, nous faisons les conseils lecture de Fréquence Mistral. Alors là, bah, de toute façon, aujourd'hui, on a un conseil lecture à vous proposer, Les baies rouges d'Églantier de Christophe Avella-Bagure, qui d'ailleurs va nous relire un extrait de ce roman.
Alors c'est à la suite de l'itinéraire de, j'explique en quelques secondes, l'itinéraire d'Adriane à qui va arriver quelques aventures assez désagréables. Il se retrouve en hôpital psychiatrique quelques mois. Et voilà ce qu'il nous dit. Demain je serai là depuis 2 mois. Plus qu'un mois j'espère et je serai libre de choisir mes chemins. J'aimerais sentir le vent frais sur ma peau, dénudée en haut du mont sauvage. Je déposerai mes vêtements et mes bras tendus vers le ciel, j'appellerai la nature. Je sentirai la force de l'air glissant sous les rémiges des ailes des vautours, et je me laisserai porter son turbulence par les courants ascendants. Je vivrai enfin. Au matin, j'irai me mettre dans le torrent où j'absorberai les nutriments de la terre et ferai taire les nuisances. Puis la facélie, l'hypomée et l'absinthe tapisseront le sol du nouveau-né que je serai devenu. Adriane s'endormit, le visage souriant.
Le visage souriant d'Adrien qui fait l'expérience de l'hôpital psychiatrique suite à s'être enfermé lui-même dans sa propre prison, au départ.
Oui, au départ, je crois que c'est une remise en question complète de sa vie, même de sa vie sensuelle. Et à un moment donné, il explose et puis il dépasse un peu les limites. Mais comme un artiste, il ne va pas se contenter d'une petite crise chétive. Il va faire tout exploser quoi, pour recommencer. Le phénix, voilà, il brûlera de ses et de ses cendres renaîtra peut-être un nouvel Adrian, mais qui abandonnera l'atelier, qui abandonnera un moment peut-être la société, peut-être pour toujours, et qui s'enfoncera. On sera dans la nature, peut-être pour retrouver ses vraies origines, l'origine de tout, quoi.
Et ça, on n'en dira pas plus. Les lecteurs et les lectrices le découvriront eux-mêmes en lisant votre roman qui s'intitule « Les baies rouges des Glantiers » de Christophe Avella Bagure. Dans les projets que vous avez en écriture, il y a quelque chose de prévu déjà ou quelque chose qui est en train de se préparer?
Effectivement, le fait d'avoir mis pied dans la littérature, dans les mots, de façon volontaire, consciente, fait que maintenant j'ai pas mal de synopsis en cours et là j'écris depuis des mois un nouveau roman. Qui en est à peu près à la moitié, qui s'appellera donc Les démons de Paul. Et c'est une histoire où c'est une histoire de temps par rapport aux parents, quelqu'un qui avance dans la vie et qui voit les gens qu'il aime dépérir et partir vers la mort. Donc voilà, je suis en train d'écrire ça. Et puis ensuite, je pense qu'il y aura aussi le volume 2 des baies rouges des Glantiers, et où on sera complètement dans la nature, il n'y aura plus d'être, plus de peinture, il n'y aura que la nature à redécouvrir pour se redécouvrir.
Eh bien, merci beaucoup. Vous nous avez donné envie de lire ce livre qui s'intitule « Les baies rouges des Glantiers » de Christophe Avella Bagure. On peut trouver évidemment toutes les informations sur le site qu'on retrouvera sur le site de fréquencemistral.com. On mettra toutes vos références. Mmh. Et puis vous êtes toujours le bienvenu ici pour venir nous parler de vos œuvres, de toute votre actualité concernant vos créations, qu'elles soient littéraires ou que ce soit au niveau de la peinture.
Merci beaucoup.